Chapitre 6. De Fëanor et de la délivrance de Melkor. Or, les trois peuples des Eldar étaient enfin réunis en Valinor, et Melkor était dans les fers. Ce fut le zénith du royaume béni, le fête de sa gloire et de sa félicité, dont le compte des années fut long, mais le souvenir trop bref. À cette époque, l'esprit et le corps des Eldar étaient venus à maturité, et les Noldor montraient toujours plus d'habileté et d'érudition. Et les longues années ne laissaient voir de fin à leurs joyeux travaux, fertiles en inventions nouvelles, belles et merveilleuses. C'est alors que les Noldor commencèrent d'imaginer les lettres, et qu'un savant du nom de Rumil, de Tirion, le premier inventa des signes propres à transcrire la parole et le chant, certains pour la gravure sur le métal ou la pierre, d'autres pour le dessin avec le pinceau ou la plume. En ce temps-là naquit à Eldamar, dans la maison du roi à Tirion, sur la couronne de Tuna, l'aîné des fils de Finwë et le plus aimé de tous. Curu Finwë était son nom, mais sa mère l'appela Fëanor, l'esprit de feu. Et c'est ainsi qu'on se souvient de lui dans tous les contes des Noldor. Sa mère se nommait Myriel, et on l'appelait Serindé, en raison de sa suprême habileté en matière de tissage et de travaux d'aiguilles, car son tour de main était plus subtil qu'aucun autre, même chez les Noldor. L'amour de Finwë et Myriel était d'un grand bonheur, car il naquit dans le royaume béni lors des jours bienheureux. Mais tout le temps qu'elle porta son fils, Myriel se consuma dans son corps et son esprit, et dès sa naissance, elle souhaita être délivrée du labeur de vivre. Et quand elle lui donnait un nom, elle dit à Finwë, « Jamais plus je n'aurai d'enfant, car une force qui eût nourri la vie de plusieurs s'est dépensée en Fëanor. » Lors, Finwë s'affligea, car les jours des Noldor étaient encore jeunes, et il désirait amener de nombreux enfants dans la félicité d'Aman. Et il dit, « Aman n'apporte-t-il pas la guérison? Ici toute lassitude trouve son apaisement. » Mais comme Myriel languissait toujours, Finwë chercha conseil auprès de Manwë, et Manwë la confia aux soins d'Irmo en Lorienne. Finwë était triste lorsqu'ils se séparèrent, pour un court moment, pensait-il, car ce lui semblait un malheureux aléa que la mère dut quitter la maison et manquer tout au moins les premiers moments de l'enfance de son fils. « C'est certes malheureux, » dit Myriel, « et j'en pleurerais si je n'étais pas si lasse. Mais ne me blâme en rien pour cela, ni pour rien de ce qui pourrait s'en suivre. » Elle se rendit alors au jardin de Lorienne et s'allongea pour trouver le sommeil. Mais si elle semblait dormir, son esprit quitta bel et bien son corps et passa en silence aux halles de Mandos. Les demoiselles d'Este soignirent le corps de Myriel et il ne se flétrit pas, mais elle ne devait pas revenir. Dès lors, Finwë vécut dans la peine, et il visitait souvent les jardins de Lorienne et s'asseyait sous les saules argentés près du corps de son épouse, l'appelant par chacun de ses noms. Mais ses appels restaient vains, et seul dans tout le royaume béni, il était privé de joie. Au bout d'un certain temps, il cessa de se rendre en Lorienne. Il consacra désormais tout son amour à son fils, et Fëanor grandissait vite, comme si un feu secret brûlait en lui. Il était grand, avait beau visage et beaucoup de talent, des yeux perçants et des cheveux noirs corbeaux, ardent et obstiné dans tout ce qu'il entreprenait. Les conseils d'autrui le détournaient rarement de ses desseins, la force, jamais. Il devint, entre tous les Noldor de son temps et d'après, l'esprit le plus subtil, la main la plus adroite. Améliorant l'œuvre de Rumil, il inventa dans sa jeunesse les caractères qui portent son nom et que les Eldar ont toujours utilisés depuis lors. Et il fut le premier des Noldor à découvrir qu'il était possible, par un art consommé, d'obtenir des gemmes plus grandes et plus brillantes que celles de la terre. Les premières qu'il confectionna étaient blanches et incolores, mais si on les portait à la lumière des étoiles, elle s'éclairait de reflets bleus et argent, plus vifs que la flamme de Elwyn. Et il conçut aussi d'autres cristaux qui donnaient à voir des choses lointaines, minuscules quoique parfaitement nettes, comme par le regard des aigles de Manwë. Les mains et l'esprit de Fëanor étaient rarement désœuvrés. Encore tout jeune, il épousa Nerdanel, fille d'un grand forgeron nommé Matan, l'un des Noldor les plus aimés d'Aolé. Et de Matan, il tira de nombreux enseignements sur la mise en œuvre du métal et de la pierre. Nerdanel était tout aussi volontaire, mais plus patiente que Fëanor, moins soucieuse de dominer les esprits que de les comprendre. Et au début, elle le retenait lorsque la flamme de son cœur devenait trop ardente. Mais ses actes futurs lui causèrent une grande peine et l'éloignèrent de lui. Elle donna à Fëanor 7 fils, et quelques-uns héritèrent en partie de son tempérament, mais pas tous. Or, un jour, Finwë prit pour seconde épouse Indis la Belle. C'était une Vanya, proche parente du grand roi Ingwë, aux cheveux d'or, au profil élancé, en tout différente de Myriel. Finwë l'aimait énormément et avait retrouvé la joie. Mais l'ombre de Myriel ne quitta pas la maison de Finwë ni son propre cœur. Et de tous ses êtres chers, Fëanor occupait le plus souvent ses pensées. Ce remariage ne fit pas plaisir à Fëanor, et il n'avait guère d'amour pour Indis, non plus que pour Fingolfin et Finalfin, ses demi-frères. Il vivait loin d'eux, explorant le pays d'Aman ou s'absorbant dans le savoir et les arts qui le passionnaient. Dans les événements malheureux qui survinrent par la suite, et dont Fëanor fut l'instigateur, beaucoup virent la conséquence de cette brèche au sein de la maison de Finwë, croyant que si Finwë avait surmonté sa perte, et s'était contenté de la paternité de son distingué fils, les résolutions de Fëanor eussent été différentes et de grands maux eussent pu être évités. Car les peines et les déchirements de la maison de Finwë sont gravés dans la mémoire des elfes Noldorin. Mais la destinée des enfants d'Indis fut aussi grande que glorieuse, comme le fut celle de leurs enfants, et l'histoire des Eldar eût été diminuée s'ils n'avaient vécu. Or, tandis même que Fëanor et les artisans des Noldor étaient à l'œuvre, n'entrevoyant pas de fin à leurs heureux travaux, et que les fils d'Indis venaient à pleine stature, le zénith du Valinor touchait à son terme. Car il arriva que Melkor, suivant le décret des Valar, eut purgé la durée de sa peine, resté 3 âges durant en réclusion à Mandos seul. Puis, comme Manwë l'avait promis, on le fit de nouveau comparaître devant les trônes des Valar. Alors il contempla leur gloire et leur félicité, et l'envie lui monta au cœur. Il contempla les enfants d'Ilúvatar assis aux pieds des puissants, et la haine l'envahit. Il contempla la profusion de brillantes gemmes et les convoita. Mais il scella ses pensées et sursit à sa vengeance. Devant les portes de Valmar, Melkor s'humilia aux pieds de Manwë et implora son pardon, jurant que si on daignait faire de lui ne serait-ce que le plus insignifiant des êtres libres du Valinor, il aiderait les Valar dans tous leurs travaux et surtout dans la réparation des nombreux torts qu'il avait causés au monde. Enyéna soutint sa prière, mais Mandos resta silencieux. Alors Manwë lui accorda son pardon. Mais pour lors, les Valar n'admettaient pas qu'il pût se soustraire à leur regard et à leur vigilance, et il fut contraint de rester en deçà des portes de Valmar. Cependant, chaque parole et chaque geste de Melkor prenaient en ce temps-là un dehors aimable, et les Valar, comme les Eldar, bénéficiaient de son aide et de ses conseils s'il les requérait. Ainsi, avant peu, on lui donna la permission d'aller à loisir dans le pays, et il sembla à Manwë que le mal en Melkor était guéri. Car Manwë en était exempt et ne pouvait l'appréhender. Et il savait qu'au commencement, dans la pensée d'Ilúvatar, Melkor avait été comme lui. Il n'avait pas accès aux derniers replis de son cœur et ne voyait pas que l'amour avait quitté son être pour toujours. Mais Ulmo n'était pas dupe, et Toulkas serrait les poings chaque fois qu'il voyait passer Melkor, son adversaire. Car si Toulkas est lent à la colère, il est aussi lent à l'oubli. Mais ils obéirent au jugement de Manwë, car qui entend défendre l'autorité contre la rébellion ne doit lui-même se rebeller. Or Melkor nourrissait la plus grande haine envers les Eldar, parce qu'ils étaient beaux et pleins de joie, mais aussi parce qu'il voyait en eux la cause du soulèvement des Valar et partant de sa propre chute. Aussi feignait-il de les aimer d'autant plus, cherchant leur amitié, et il mit son savoir et son énergie au service des grandes œuvres qu'il souhaitait accomplir. Les Vanyards, en fait, le considéraient avec suspicion, car il vivait dans la lumière des arbres et n'en demandait pas davantage. Et lui-même ne se préoccupait guère des Teleri, les jugeant de peu de valeur, trop faibles instruments pour servir ses desseins. Mais les Noldor se régalaient du savoir caché qu'il pouvait leur révéler, et certains prêtèrent l'oreille à des paroles qu'il eût mieux valu pour eux ne jamais entendre. Plus tard, Melkor alla même jusqu'à prétendre que Fëanor avait beaucoup appris de lui en secret et qu'il avait bénéficié de son enseignement dans les plus grandes de ses œuvres. Mais la convoitise et l'envie lui avaient inspiré ce mensonge, car aucun de ceux de l'Eldalier n'a jamais détesté Melkor plus que Fëanor, fils de Finwë, qui le premier l'appela Morgoth. Et s'il se laissa prendre dans les filets du ressentiment de Melkor envers les Valar, il ne s'entretint jamais avec lui et ne prit de lui aucun conseil. Car Fëanor n'était mu que par la flamme qui brûlait en lui, et il ne demandait ni l'aide ni le conseil de quiconque vivait en Aman, ni des grands ni des humbles, sinon ceux, et pour un temps seulement, de la sage Nerdanel, son épouse.